Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 3 juin 2015. Il est un peu plus de 14h, 14h03. Christophe Roland au micro, Gérald est également présent et surtout nous recevons un invité aujourd'hui. Invité seul, ces temps-ci, il y a un peu de monde derrière le micro. Nous recevons Franck-Emmanuel Comte, directeur musical de l'ensemble Le Concert de l'Hostellieu. Pour deux excellentes raisons, c'est que le concert de l'Hostellieu a encore un programme dans sa saison, même encore plusieurs programmes. Un programme très précis lundi 8 juin prochain à venir à la Chapelle de la Trinité. Handel en Italie en quelque sorte, c'est le Dixit Dominus extrait, de Handel. Et puis Franck-Emmanuel Comte nous parlera également d'autres concerts qui seront programmés dans le cadre du... Je ne sais pas comment nommer cela, une sorte de festival, la Tour Passagère. D'ailleurs, dans deux semaines, nous recevons Jérôme Salor pour nous en parler plus précisément. Et puis, dernière raison, excellente raison également, c'est que Franck-Emmanuel Comte va nous parler de la saison prochaine à venir, saison 2015-2016, une saison autour des constellations, autour des étoiles. Voilà, comme d'habitude, c'est le programme pour cette émission de Spectaculaire. 69e, je crois, Gérald, on approche de la 70e. Nous sommes bien sûr... Radio Canu, vous avez tout à fait raison de nous écouter sur le 102.2 de la bande FM ou bien sur internet sur radiocanu.org. Et pour l'instant, nous allons écouter justement un extrait de ce concert de la semaine prochaine. Nous allons commencer comme si vous étiez la semaine prochaine. Voilà, nous sommes lundi 8, ce coup de 20h30, vous êtes installés et voici comment va commencer le concert Dixit Dominus. Et c'est d'ailleurs très intéressant puisque nous écoutons un extrait même, disons, réalisé par le concert de l'Hostellieu. C'était dans le cadre d'un festival à la Chaise Dieu, extrait d'un album Handel en Italie. Là, nous n'écoutons que le tout début. Vous allez voir, c'est très beau. Les artistes sont différents. Bien, nous laisserons Franck-Emmanuel Comte parler justement de tout cela. Commençons en musique avec du baroque. Je n'ai pas encore indiqué ce terme, mais il faut quand même le dire.
Thank you.
c'est avec l'accord total que je coupe. Voilà, j'ai coupé cette première partie du Dixit Dominus de Handel qui sera donné la semaine prochaine, lundi 8 juin, à la Chapelle de la Trinité. Et donc, c'est avec l'accord de Franck-Emmanuel Comte, qui est notre invité, qui était également le directeur musical de ce CD que nous écoutons. C'est une production d'ailleurs, c'est très intéressant, on pourrait en parler, le concert de l'Hostel-Dieu qui a différentes activités, qui notamment édite, qui publie donc des CD, des DVD aussi. Donc Franck-Emmanuel Comte me permet de passer, de chinter légèrement cette entrée pour que nous puissions eh bien, commencer cette émission par un portrait tout d'abord. Franck-Emmanuel Comte, bonjour.
Bonjour.
Gérald insiste toujours, voilà, il faut saluer les personnes. Nous vous avions déjà reçu, je crois que c'était pour la quatrième émission, c'était un mercredi dans ces eaux-là, 4 ou 5 juin 2013. De l'eau a passé sous les ponts depuis. Néanmoins, à la fin du mois de juin, c'est toujours un peu cette même idée qui est, il y a encore un programme à venir, même plusieurs programmes, plusieurs concerts à venir. Et puis aussi, il y a la saison prochaine qui est déjà prévue. La maquette est très jolie. Je vois, Gérald, que tu la feuillettes. Donc, pour parler de tout cela, bien, Franck-Emmanuel Comte, pourriez-vous tout d'abord nous dire quelques mots pour vous présenter, pour indiquer quels ont été vos premiers pas, je crois, du côté de la Vendée et qui vous ont conduit ensuite ici vers Lyon. Non, promis Gérald, je n'évoquerai pas une private joke personnelle qui est... Franck, je vous en prie, bonjour. Donc, j'ai déjà
bonjour,
indiqué.
Donc, parcours, je vais le faire très bref.
Hein, oui,
donc,
oui.
Je ne suis pas lyonnais, je suis bourguignon d'origine, né à Dijon. J'ai fait mes études à Dijon, hein, tout comme Jean-Philippe Rameau, je me permets d'évoquer un illustre collègue. Et puis, tout comme Rameau, d'ailleurs, je suis venu à Lyon après, hein, voilà. Mais je suis resté un peu plus longtemps. Je suis venu à Lyon pour mes études au conservatoire, à l'université. Et puis après, j'ai travaillé pendant quelques années pour des théâtres, pour des maisons d'opéra, notamment à Nantes, à l'Opéra de Nantes, où je suis resté 3 ans. Et puis pour revenir m'installer définitivement à Lyon, où je m'occupe du concert de l'Hôtel-Dieu. C'est une activité qui est très, 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 très prenante. Je suis à la fois directeur artistique, chef d'orchestre, claveciniste pour cet ensemble. Et puis par ailleurs, je dirige aussi, je programme sur différents festivals de musique classique et baroque en Rhône-Alpes, mais également en Bourgogne.
Et était-ce déjà du baroque à Nantes?
Alors non, Nantes, c'est un opéra qui faisait beaucoup de répertoire lyrique 19e et 20e siècle. Donc,
bien sûr, mais y avait-il de votre côté déjà un accent particulier ou plaisir à programmer des œuvres?
Non, je n'avais pas la possibilité de programmer à Nantes, j'étais chef des chœurs, donc je ne programmais pas. Mais ça m'a permis de voir d'autres horizons artistiques, et ce qui est toujours important pour une carrière d'artiste.
Et alors, le baroque, comment y êtes-vous venu?
Alors, le baroque, j'y suis venu un petit peu tout seul, puisque quand j'étais étudiant au CNSM à Lyon, il n'y avait pas de département de musique baroque. J'étais le premier étudiant, la première année, j'étais tout seul. Et donc, je l'ai appris un peu ailleurs, avec des rencontres fortuites, notamment celle de William Christie, qui m'a beaucoup inspiré il y a maintenant quelques années, je dirais, il y a 23, 24 ans.
Voisin presque, quand on est à Nantes, disons,
oui.
Les zones, il est encore installé à Caen?
Non, il se trouve que, non, je l'ai rencontré sur
Bourgogne
ou sur Paris, et c'est vrai que c'est vraiment, ça a été pour moi un modèle. Lui et quelques autres, hein, évidemment, dans les années 80, il y a eu quelques très 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 grands chefs baroques. Si on peut parler de filiation, bon, toute modestie, hein, c'est William Christie, mais pour compléter, je parlerai de John Eliot Gardiner, qui lui a eu un temps à Lyon.
Mais puis, un peu comme vous, peut-être, directeur à l'opéra.
Enfin, un peu comme moi, j'ai quelques scrupules à dire. C'est une telle carrière internationale.
Ce que je veux dire, c'est programmait-il un peu de baroque? Oui, oui, pour le coup, lui,
ah,
à,
oui,
Lyon,
oui,
à Lyon,
oui,
à Lyon
oui,
il l'a
lui
fait.
Lui a fait effectivement le va-et-vient entre le lyrique et le baroque, mais c'est vraiment le répertoire du 18e siècle qui le marque, vraiment. Et puis peut-être un troisième chef pour la musique religieuse, la musique sacrée, je pense à Philippe Hervéguez. Voilà, hein, ce côté un peu plus brume du Nord, on va dire.
Quels sont déjà les noms des orchestres de ces illustres chefs? Je crois que le John Eliot Gardiner, c'est un nom magnifique. C'est
oui, il en a eu de très nombreux, de plusieurs, effectivement, ces ensembles anglais principalement, mais Philippe Hervéguez, c'est plutôt, en France, on connaît son travail avec la Chapelle Royale et puis le Collegium Vocal, donc voilà, et William Christie, ben, c'est les arts florissants, bien sûr. Voilà.
Et pour John Eliot Gardiner, n'est-ce pas les révolutionnaires et romantiques?
Alors, l'orchestre, oui, il y a eu les English Solists, il y a eu plusieurs ensembles, au gré parler de ses répertoires, mais c'est une très longue carrière, très riche.
Je cherche ces noms parce que c'est une sorte de transition. C'est, ouais. Est-ce que ces termes définissent un petit peu ce qu'est le baroque avec ce terme de collégium vocal, dites-vous, pour Philippe Hervègue, ou bien la chambre royale, avez-vous aussi indiqué? Est-ce que ça caractérise un peu révolutionnaire et romantique? Non, pour le coup, c'est un peu post, c'est un peu après le baroque.
C'est-à-dire que les chefs baroques, en général, vont chercher dans les siècles anciens, 17e et 18e siècle, une inspiration pour créer leur ensemble, leur répertoire, mais aussi la structure de leur ensemble. Donc on a le choix entre choisir une œuvre de musique comme Les Arts Florissants, hein, c'est une œuvre de Charpentier, qui c'est un divertissement, hein, qui s'appelle ainsi. Et d'autres vont s'appuyer sur des institutions. Bon, le concert de l'Hôtel-Dieu, nous concernant, bon, évidemment, c'est l'Hôtel-Dieu de Lyon, où il n'y a jamais eu véritablement d'ensemble musical, hein. Mais du temps de Rabelais, au XVIe, il y avait une activité musicale où on donnait des cours de musique aux orphelins, hein. C'est comme Vivaldi à Venise. Et il y a eu notamment un prof de viol de gambe, quand même, hein, pas n'importe lequel. Il y a eu Monsieur de Sainte-Colombe, du fameux film
Tous les matins du monde.
Tous les matins du monde.
On a passé il n'y a pas si longtemps que ça.
Voilà, qui a été prof de viol dans cette institution à Lyon, à la fin du XVIIe siècle. Voilà, donc il y a toujours eu un lien entre ces institutions caritative, musicale, qui avait en même temps une grosse force de frappe financière, hein. Les HCL sont un des plus gros propriétaires fonciers à Lyon, et ce mécénat des arts et cet enseignement, voilà. Donc il y a pas mal d'autres ensembles en France ou à l'étranger qui s'appuient sur ces institutions qui se sont arrêtées de fonctionner souvent à la Révolution, mais qui renaissent au XXe siècle sous une forme plus moderne.
Et ce répertoire n'avait pas eu tendance à être oublié ou ne plus être joué et passé par une redécouverte des instruments d'époque, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Totalement, en fait. En fait, au XVIIe, au XVIIIe siècle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne jouait que de la musique contemporaine, hein, composée la veille au soir ou l'année précédente, mais jamais plus. Donc on jouait tout le temps de la musique contemporaine. Donc lorsqu'on était à l'époque baroque, on jouait de la musique baroque, mais il y a eu un moment où on n'a plus joué cette musique des grands maîtres, et surtout il y a eu un moment où on s'est remis à la rejouer de nouveau. Et moi je dis toujours que l'un des premiers baroqueux, une des premières personnes qui s'est intéressée à la musique ancienne, c'est Mozart. Lorsqu'il a réorchestré le Messie, hein, de Handel, qui était mort et enterré depuis de nombreuses décennies, lorsque Mozart a réorchestré le Messie. Mais c'est un des tout premiers. Alors après, il y en a un autre fameux au 19e siècle, c'est Mendelssohn.
Pour Bach, il retrouve une...
Mais bon, c'est un peu des cas isolés. C'est au cours du 19e siècle, à la toute fin du 19e, au début du 20e, en France... sur Paris, des gens comme Debussy, Dindy s'intéressaient à la musique de Rameau. Et voilà, progressivement, au début c'était à l'affaire de quelques académies, quelques illuminés qui s'intéressaient à cette musique ancienne. Et puis le mouvement a pris beaucoup d'ampleur dans les années 70-80, donc je parle de 1900, hein, 70-80, pour devenir franchement à la mode dans les années 2000.
Et maintenant, ça marche, le baroque.
Ça marche bien, parce qu'il y a un public qui trouve dans la musique baroque, par rapport à la musique classique, peut-être un peu plus d'accessibilité, plus de dynamisme, plus d'expression, une présence des voix aussi qui est très forte, qui est très concrète et expressive. C'est un répertoire qui est un poil, paradoxalement, un poil moins aristocratique, un peu moins clivelant que la musique classique. Je pense qu'on peut l'apprécier avec moins de culture musicologique. Hein. C'est pas nécessaire d'avoir fait des études ou absolument potasser son livret pour apprécier un programme de musique baroque, souvent avec des formes courtes. On la joue dans des endroits qui sont pas toujours des églises ou des auditoriums. C'est souvent dans des lieux décalés. Et puis les interprètes sont jeunes, sont très très jeunes. Je pense que ça compte. Moi qui suis, je pense, encore un peu jeune, je vous disais que j'étais un des premiers à Lyon à le faire, c'est vous dire que ça veut dire que tous les gens qui la jouent à Lyon sont plus jeunes que moi. Ouais. Donc je pense que quand un projet est porté par des jeunes gens qui sont à la fois passionnés et hyper technicien et spécialiste, bon, bah, c'est cohérent et c'est convaincant. Donc, on trouve, nous, Ensemble Baroque, un nouveau public qui soit vient de la musique classique et qui a envie d'écouter autre chose, soit vient d'un tout autre répertoire, ça peut être du jazz, ça peut être de la musique contemporaine. Et donc on a un public assez divers, c'est très difficile de le caractériser sur le plan culturel, sur le plan sociologique aussi. Finalement, il y a des gens âgés, moins âgés, il y a des gens qui ont un certain pouvoir d'achat et d'autres pas du tout. Donc c'est assez sympathique, c'est un public mélangé.
Il y a des grands classiques que les gens adorent, tout le monde connaît, des Purcell, le roi Arthur, des choses comme ça. Même les gens qui ne sont pas très cultivés en musique baroque ou classique aiment ces airs, les connaissent.
Alors,
il y a des chefs-d'œuvre, enfin on pourrait dire des tubes du baroque.
Il y a des tubes du baroque.
Vivaldi.
Et quand on regarde les musiques de pub, par exemple, à la télévision, elles utilisent très très souvent les musiques savantes, dites classiques. Et dans les musiques savantes, on met baroque, classique, romantique, 20e siècle, etc. Mais à 70%, ce sont des musiques du 18e siècle.
Oui. Hein,
c'est-à-dire qu'on... Dans les 5 siècles de musique savante, on va prendre de manière privilégiée des musiques baroques, parce qu'elles sont plus aisément reconnaissables, on peut les fredonner, elles ont une force mélodique
vivante,
et elles sont vivantes,
fraîches, finalement.
C'est plus vivant, voilà. Et pour un jingle, c'est plus parlant. Et j'ai un ami là qui chantait l'air du froid de Purcell, très très connu, qui l'a chanté.
On en a écouté une version, je crois, Gérald, je ne sais plus quand, c'est ce chanteur des morts du sida à la fin des années 80.
Oui, alors Klaus Nomi.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc l'ami auquel je pense, c'est pas lui. Il est très vivant, il est à Lyon, c'est Paulin Bungen, qui est enregistré pour une marque de saucisson. Mais ce qui est marrant, c'est que ça fait, en 2 ans, je vois deux autres marques de saucisson qui ont enregistré leur publicité. Je parle de publicité qui passe en prime time à 20h.
Les grandes chaînes.
Avec la même musique, avec un autre ensemble. Ouais. C'est-à-dire que désormais, le saucisson, voilà, c'est l'air du froid. C'est quand même fou.
C'est dingue. C'est comme Shostakovich et la fameuse valse de l'UAP qui était...
N'y a-t-il pas un peu une sorte de saucissonnage dans ces terres ce sont des syllabes ça, qui sont libérées.
C'est ça,
transition toute trouvée, c'est absolument génial. Tu vois, Gérald, pour une fois, je laisse la parole et les choses s'imbriquent d'elles-mêmes. Vous avez, me semble-t-il, Franck-Emmanuel Comte, bien brossé un peu ce qu'était le baroque avec... peut-être pas tant dans les détails techniques, et là justement on va y venir en parlant
plus
précisément.
Dans l'histoire des mentalités, des idées, on va pas parler de cosmogonie, quoique le programme s'appelant Constellation, on pourrait revenir sur la grande révolution cosmogonique.
Ça c'est la saison prochaine, et d'ailleurs nous parlerons des lieux, puisque vous avez indiqué justement que les lieux étaient un peu différents. Mais donc plus précisément, vous êtes ici pour parler nous vous recevons pour évoquer ce concert de la semaine prochaine, et là justement pourriez-vous peut-être faire des commentaires pour le coup plus techniques, plus détaillés, et puis justement trouver le moyen de parler du baroque, en parlant par exemple, en caractérisant ce qu'on a écouté en tout début d'émission, ce qu'on va écouter dans quelques instants aussi, le Gloria. Alors, donc en début, nous écoutions les premières notes du Dixit Dominus, qui précisément commence par un Dixit Dominus. Peut-être même que vous pourriez caractériser le texte, indiquer d'où il provient. Il nous manquait, je crois, on a dit tout à l'heure Bach, ce serait le début du baroque, c'est ça, Bach, je crois, ou plutôt...
Alors, Bach
je me
est exactement contemporain de Handel.
C'est
son même année.
C'est le cœur du baroque.
Oui,
le début, ça serait Monteverdi, peut-être. Alors.
Voilà. Début du baroque, début du 7e, c'est entre autres comme compositeur connu, Monteverdi.
Les Italiens, ça vient de l'Italie, le baroque, ou
on
dire que ça vient de plusieurs pays quand
partie,
même.
Tout à fait, oui, les Italiens, au tout début, avec l'invention de l'opéra, de la mélodie accompagnée, du continuo, tout ça c'est le début 17e, mais c'est effectivement 80 ans avant Bach et Handel, hein, qui sont nés en 1685, tous les deux. Et donc... le Dixit Dominus, oui, c'est intéressant. Handel, âgé de 21 puis 22 ans, arrive en Italie. Il fait un grand voyage, parce qu'il cherche du boulot, en fait, hein, puis il cherche à se former. Et il compose ce Dixit Dominus pour montrer son talent. Donc, c'est la musique qu'on a entendue tout à l'heure. C'est la musique d'un jeune compositeur qui a 22 ans. Et tout comme Bach, qui a 22 ans la même année, qui lui reste en Allemagne et compose plusieurs cantates très connues, la cantate 106 et surtout la cantate numéro 4 que nous jouerons dans le même concert le 8 juin, la cantate 4.
Voilà, l'œuvre Dixit Dominus est assez courte, hein. Je crois que sur le CD que vous aviez, elle était couplée à d'autres œuvres.
Oui, ça dure 35 minutes à peu près.
Et donc, alors vous dites la cantate 104 de
alors,
Bach.
Alors, la cantate 4
cantate
de Bach,
4
qui est
de
une
Bach.
Des toutes premières cantates de Bach, que Bach compose la même année, qui est une très 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 belle œuvre. Et dans ce même concert, nous jouerons une autre œuvre composée la même année en 1607. Je me suis un peu acharné hein, cette année 1607. fait.
C'est très beau, c'est très bien ça, oui.
Je vous dirai pourquoi après.
Quelle pertinence.
Donc,
quelle
c'est
cohérence.
Une œuvre d'un Italien, pour le coup, Scarlatti, Alessandro Scarlatti, qui lui est plus âgé. Alors c'est marrant parce que Scarlatti a un fils, Domenico, qui a aussi le même âge que Bach et Händel. Mais ils sont tous les trois nés la même année. Mais là, Scarlatti, le père,
il
compose...
Scarlatti, je crois qu'il n'y en avait qu'un.
Compose un oratorio qui s'appelle Il primo omicidio, le premier meurtre. Donc c'est l'histoire de Abel et Caïn. Et c'est un oratorio fantastique qui dure 3 heures, hein, dont nous jouerons 7 ou 8 extraits pour compléter le programme. Et donc ces 3 œuvres...
sont contemporaines.
Contemporaines.
Ah, mais
composées à deux mois près. 1707. Alors 1707, c'est une année incroyable pour l'Europe. C'est, à mon avis, pour moi, c'est vraiment presque la naissance de l'Europe. Parce que l'Europe est à feu et à sang. Il y a plusieurs guerres, il y a des guerres de succession, notamment la guerre de succession d'Espagne. Il y a la France là, qui tire, de Louis XIV, qui tire les ficelles. Mmh. Et il y a plein d'autres guerres en Europe qui vont se solder par des traités et qui vont faire en partie, je trouve, émerger l'Europe moderne. Alors c'est l'année où se crée le Royaume-Uni, hein, ni plus ni moins. Hein, le Royaume-Uni se crée cette année-là. C'est une année aussi où il y a une guerre très importante en Ukraine. Une des puissances montantes de l'époque, qui est la Suède, fait la guerre à la Russie pour aider l'Ukraine à prendre son indépendance. Étrange, hein, on en parle un petit peu de nos jours aussi. Et on était déjà dans cette même animosité entre l'Ukraine et la Russie en 1707. Il y a tout un tas de conflits, mais aussi de signatures de traités, de conventions en cette année 1707 qui font que l'Europe ressort toute modelée, hein, de cette année de transition, qui est une année chaotique. Et c'est souvent dans le chaos que les compositeurs, ou les artistes en général, s'expriment. Hein, on pourrait citer...
Bruegel et Bosch, quelques siècles avant, pendant les grandes pestes.
La peste de Camus, on peut citer Guernica de Picasso, enfin, il y a énormément de choses. On pourrait aller... les tensions, les incertitudes stimulent l'inspiration des artistes. En tous les cas, voilà, 3 musiciens, 3 œuvres composées la même année.
L'anecdote, enfin du moins c'est peut-être seulement anecdotique, mais là pour le coup, oui, il y a sûrement de l'Europe dans cette œuvre de Händel, puisqu'il ne la compose pas en Autriche, dont il est originaire, ou Allemagne, Händel
En Saxe. Et donc là, il est
en
à
Allemagne.
Rome.
Voilà, il se déplace. Donc,
alors il se déplace parce qu'il fuit.
Il y a de l'Europe,
en fait,
là.
Au début, il n'était pas à Rome, il était à Milan, il se déplace. Et puis là, il y a les armées françaises qui arrivent parmi... Il y a aussi des batailles en Italie entre les armées françaises et autrichiennes. Enfin, il y a, bref, il se réfugie à Rome et c'est à Rome qu'il compose le Dixit Dominus et un certain nombre d'autres œuvres de la même veine.
Est-ce une commande cette œuvre
Je crois pas. Il l'a composée pour sans doute pour une chorale. Enfin une chorale, un groupe vocal virtuose qui s'appelle la Capella Giulia, qui était des solistes. Hein. Mais on n'en est pas tout à fait sûr, donc c'est une œuvre virtuose.
Il est organiste à l'époque ?
Oui.
De l'époque pour un musicien, c'est d'être organiste, rattaché à une chapelle, une église et...
Alors c'est marrant parce que justement cette même année-là, il fait un concours à Rome, un concours impromptu d'orgue et de clavecin qui l'oppose à Scarlatti, le fils, Domenico. Et je crois que l'un ressort vainqueur de l'épreuve d'orgue et l'autre sort vainqueur de l'épreuve de clavecin. L'orgue pour Händel et le clavecin pour Scarlatti.
Mais alors, cette œuvre a-t-elle été jouée en 1707 elle est composée, ça on le sait. On a pu
probablement, oui. Oui, elle a été jouée, oui.
Et donc, à défaut, ce n'est pas forcément. Donc, vous dites une commande. Pourquoi est-ce que Händel s'est intéressé à ce texte? Et en quoi, donc justement, arrivons-en, en quoi ce texte, cette musique est-elle baroque? Là, les premières notes que nous écoutions de ce Dixit Dominus que vous donnez la semaine prochaine.
Händel, saxon et luthérien, il est en pleine terre papiste.
Il
compose le Dixit Dominus, un psaume latin, dans le style très italien, très catholique. Et d'ailleurs, on lui propose, tellement il est bon dans l'écriture de musique catholique, on lui propose de se convertir. Et c'est une proposition qu'il déclinera. Mais c'est effectivement une musique qui est extrêmement baroque au sens démonstratif, ornemental, rhétorique, dynamique, et c'est du pur baroque latin en fait. Voilà. Et lui qui vient du Nord, au cours de ses années de voyage, a vraiment fait sien le style italien qu'il a gardé un peu pour toute sa carrière. Il s'est imprégné, ouais. Mais c'est pas le seul, hein. Le voyage en Italie, c'est, c'est le.
Les peintres faisaient la même chose.
Ouais, les peintres, tout à fait, tout à fait.
Les écrivains, Stendhal.
Il y a un petit monteur qui était passé sur Rubens il y a quelques mois, quelques années, qui faisait de Rubens une sorte de diplomate, qui était aussi un peu père de l'Europe, qui tournait de cours en cours, et qui avait une grande place dans la constitution de l'idée européenne, en fait. Ça m'avait étonné.
Bah, Handel lui-même a un style tout à fait cosmopolite, puisqu'il est saxon, il séjourne en Italie, et puis après, évidemment, enfin, il va dans plusieurs cités, hein. Je parlais de Milan, Rome, Naples également, et après, évidemment, il fait une bonne partie de sa carrière à Londres. Donc ça c'était vraiment un artiste européen. D'ailleurs, c'est toujours un problème pour orthographier son nom, parce qu'il y a plusieurs orthographes selon les pays auxquels il se trouve.
Normalement, ça devrait être Georg Friedrich, c'est ça. Et là, je vois sur le livret du CD, existe-t-il encore, sera-t-il par exemple en vente au terme du concert de la semaine prochaine, ce CD Dixit Dominus, disons Handel en Italie?
Non, il est épuisé.
Il est un peu épuisé.
Magnifique son, enregistré à la chaise Dieu, il faut le dire.
C'est assez saisissant.
Prise de son.
Oui, c'est un CD qui a 10 ans, il est épuisé.
Et donc, dans le très intéressant livret, il est indiqué que la société musicale romaine l'appelait Giorgio Federico Handel.
Oui, tout à fait.
Il y a différentes orthographes. Oui, parlons peut-être un peu de la chaise Dieu et donc plus précisément de cet enregistrement, puis du concert. Donc c'est un concert virtuose. Vous disiez que Handel l'a créé pour une société, pour un ensemble virtuose. Est-ce que c'est bien le cas? C'est comme ça que l'on peut qualifier le concert de l'Hôtel Dieu? Moi, je le crois, oui.
C'est... Alors, d'autant plus que c'est vrai que là, vous avez entendu une version chorale avec le chœur du concert de l'Hôtel Dieu, mais là, le 8 juin, nous donnerons un ensemble de solistes. C'est-à-dire que les parties polyphoniques seront interprétées à un chanteur et à un instrument par voix, justement pour faire ressortir ce côté da camera, de virtuosité chambriste, et pour s'éloigner de l'aspect psaume religieux, et pour mieux mettre en valeur le côté baroque, tout à fait. Et donc, oui, alors là, à un par voix, on est obligé d'être virtuose, là, sinon on alors, se retrouve tout seul.
Qui sont-ils? Nommez-les, combien seront-ils à vos côtés?
Alors, il y a cinq solistes. Hein. Donc, les sopranos, c'est Stéphanie Wernerin, qui est une soprane parisienne. Heather Neuhaus, qui est un peu la muse du concert de l'Hôtel Dieu. Antea Pichanik, mezzo-soprano. Hugo Peraldo, ténor. Et Romain Beauclerc, qui est un jeune baryton-basse lyonnais qui est extrêmement prometteur.
Gérald, une question. Où est-il temps d'écouter donc le Gloria? Peut-être quelques mots pour introduire. C'est la fin de ce. Oui, Gérald, une question.
Non, on n'a toujours pas défini ce qu'était le baroque vraiment en termes de structure musicologique.
On va écouter.
Instruments.
C'est une heure de plus.
Non, mais
c'est difficile.
Ou cosmologique même.
Si on l'a dit.
Si mes souvenirs sont bons en termes pictural, en termes de révolution, c'est quand même le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, la contre-réforme, c'est le bouleversement. Des hommes perdus dans l'univers, finalement, qui créent de nouvelles formes esthétiques en peinture, en musique, en tout aussi. Je caricature.
Architecture, en musique, voilà. Tout à fait. Et alors, en musique, pour moi, le baroque, c'est comme en architecture, c'est l'art de la courbe et de la contre-courbe.
L'ellipse.
L'ellipse, donc on a beaucoup de circonvolutions, beaucoup de décorations. Et en même temps, en musique, le baroque, c'est vraiment un art extrêmement, une musique très dynamique, parce que c'est très lié à la danse, en fait. Et là, on retrouve l'idée du mouvement, hein, parce que la danse, c'est tout le contraire du statisme. Et donc, on a des structures de danse avec des carrures binaires ou ternaires. Par exemple, le menuet, hein, c'est une carrure ternaire qui est moins dynamique, mais qui est intéressante aussi, parce que asymétrique. Et voilà, donc c'est ça, c'est la décoration, c'est la rhétorique, parce que le baroque, c'est aussi l'art de la contre-réforme. Hein. Mm-hmm. Il faut éblouir le spectateur.
Jouer sur les sentiments.
Le spectateur qui est un client, hein, qu'il faut garder dans la vraie religion.
Voilà,
qu'il n'aille pas en face.
C'est de la propagande religieuse, finalement.
Chez les luthériens.
Voilà, rigoristes.
Voilà, les rigoristes. Donc il faut que ça soit un petit peu éclatant, hein, convaincant,
florissant.
Donc c'est pour ça que c'est une musique qui est à la fois très intérieure, très spirituelle, mais en même temps très démonstrative, très très extérieure, assez spectaculaire. Donc je pense que du coup le public de nos jours retrouve ces deux dimensions à la fois. On est séduit par le son, par l'engagement des interprètes, par le dynamisme, même quand on n'y connaît rien. Et puis si on a une corde un peu spirituelle ou plus intérieure qui vibre, eh bien on retrouve des messages assez intéressants.
Voire mystique.
Mystique, tout à fait. Dixit Dominus, le
Baroque,
Seigneur a dit.
Il me semble, c'est un mot portugais qui veut dire perle irrégulière.
Voilà, alors après pierre. C'est le côté un peu, ça veut dire bizarre en fait.
Voilà, maintenant c'est devenu dans le langage courant, baroque, un peu foufou.
En décoration, ça veut dire presque trop chargé. Quoi.
Presque kitsch, on n'est pas loin du kitsch.
Voilà, j'ai ce terme qui me vient à l'instant à l'esprit, ce terme de fioriture. Il me semble que le mot maintenant est un peu péjoratif. Oui. Néanmoins, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que justement il y a des sortes de fioritures dans la partition, disons dans la...
C'est le règne du trompe-l'œil, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est fioriture et qui ne l'est pas.
Oui, c'est-à-dire que le baroque, c'est 150 ans, donc souvent ce qu'on retient d'une période, c'est la fin de la période. Donc le baroque tardif, le baroque rococo, voilà, c'est une espèce de décadence où ne reste que la décoration, et on a oublié le cœur du baroque. Et ce baroque tardif qui est des années qui correspond aussi à la fin de l'ancien régime en France, 1750.
Style Marie-Antoinette.
Voilà, style Marie-Antoinette. Là, on est dans le
Boucher, Fragonard.
Voilà.
Bon, les églises tchèques.
C'est pas moche.
De Prague.
Non plus, mais c'est un style.
C'est un peu lourd, quoi. C'est un peu tarte à la crème parfois.
Voilà, c'est le côté un peu décadent et du baroque, mais évidemment, si on se replonge chez Monteverdi, c'est un siècle et demi auparavant, presque deux siècles. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un autre monde. Et donc le baroque, c'est très réducteur parce que ça
comme tous les tiroirs historiques en général.
Le danger des étiquettes.
Là, c'est un peu hégélien de dire qu'il y a un cours artistique qui passe par sa phase primitive, archaïque, classique, hellénistique et puis décadente.
C'est ça,
As-tu entendu, Gérald, le mot prononcé? C'est une musique spectaculaire. Hein. Oui. Forcément, à nous, spectaculaire, ça ne peut que nous plaire. Écoutons donc ce Gloria. Peut-être un mot à dire pour ce Gloria.
Alors, le Gloria, c'est ce qu'on appelle.
C'est la fin de
la doxologie. C'est le moment où on résume. Gloire à maintenant et à jamais pour les siècles à venir, etc. C'est une forme de, en termes de rhétorique, c'est le tableau final, quoi. C'est le feu d'artifice final.
Et alors donc pour ce qui est de la musique et des solistes, donc tout le monde intervient, c'est ça? C'est
oui, alors un peu chacun son tour, parce qu'il y a ce qu'on appelle une fugue, hein, donc chaque interprète arrive les uns après les autres, ce qui permet de bien les identifier, et puis évidemment tout le monde finit ensemble.
Eh bien, nous écoutons donc comme si nous étions au concert. Ce sera, mettons, le lundi 8 juin. Ce serait sur les coups, peut-être, si l'œuvre est donnée en premier, le Dixit Dominus.
En dernier.
Ah oui, normal.
Ah, donc ce sera au terme du concert, sur les coups de quoi? 22h peut-être. Vous allez pouvoir écouter.
Dans un cadre somptueux.
Ah, Chapelle de la Trinité. Alors, vous allez pouvoir écouter ce qui en plus sera joué, puisque disons, c'est l'ensemble même. Il s'agit bien du concert de l'Hôtel Dieu, dirigé par Franck-Emmanuel Comte. Les solistes sont différents. Là, sur le CD, vous pouvez écouter notamment, il y a, je crois, ce sont deux femmes qui ne sont plus maintenant, Stéphanie Rovida et Cécile Dibon-Lafarge. C'était il y a quelques années. Là, vous avez nommé notamment Heather Newhouse, muse du concert de l'Hôtel Dieu. Donc, nous écoutons ces dernières parties, le Gloria, et puis ensuite, nous évoquons plus précisément, Gérald, tu as encore la brochure en main, tu as raison, nous évoquons plus précisément la saison 2015-2016 à venir pour le concert de l'Hôtel Dieu.
Let's be real.
je me demandais s'il y avait des applaudissements, parce que c'est un enregistrement, une prise sur le vif. Et oui, Gérald, tu dis, c'est ça, ça a dû être enlevé. Alors qu'il y aurait quand même matière à applaudir, puisque c'était bien du live.
Le problème, c'est les tous.
Franck Emmanuel Comte, qui est le chef d'orchestre de ce concert, qui a été donné il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Franck Emmanuel Comte, qui est également le directeur musical et puis artistique, vous avez dit, responsable, différentes casquettes du concert de l'Hôtel Dieu. Vous êtes présent aujourd'hui avec nous pour parler maintenant, dans un deuxième temps, pour parler de la saison à venir, saison 2015-2016. Je suis en train de me dire, zut, aurions-nous mangé qu'il reste tout de même deux programmes à venir dans le cadre du festival de la Tour Passagère. Nous en parlerons dans deux semaines, si vous pouviez peut-être en dire deux mots. C'est donc le concert de l'Hôtel Dieu qui donnera des concerts dans le cadre de cette sorte de mini-festival je crois que ça dure un mois, du 15 juin au 15 juillet. Mais vous allez également nous parler, si vous le pouvez, de la saison 2015-2016 à venir. Gérald est en train de feuilleter ça, hypnotisé là, c'est assez prodigieux de voir l'image. Franck, donc ces concerts à venir des 8 et 9 juillet, je crois.
Oui, alors donc pour nous, c'est vrai que la saison se termine le 8 juin, mais commence l'été des festivals. Donc pour nous, cet été, on donne à peu près 30 concerts.
Oui, voilà. En plus, moi j'évoque ce qui est de Lyon, parce que le reste,
alors,
ce serait
Lyon,
moins Lyon.
En fait, il y a la Tour Passagère, mais nous jouerons également dans le cadre du festival Tout le monde dehors, au Parc de la Tête d'Or. Ça, c'est fin août.
Ah, j'ai manqué la date.
Dans
très
un
bien.
Événement
alors,
que
je
nous avons
ça.
Créé et animé avec trois autres ensembles baroques lyonnais, qui s'appelle Baroque sous les arbres. Baroque sous les arbres, c'est à la pointe de l'île, au parc de la Tête d'Or, et c'est fin août, entre le 22 et 26 août.
Et en plein air, ça marche bien ?
En plein air.
La musique,
oui,
la musique porte.
On est un peu amplifié, on a le soutien de la technologie quand même. Voilà. Mmh. Et puis alors la Tour Passagère, donc c'est l'association Baroque et Plus qui organise ce festival incroyable où il y a, je crois, presque 25 représentations en un mois sur cette tour qui est un théâtre élisabéthain en bois reconstruit.
A-t-il été monté ou pas encore ?
Ça prend, je sais pas, 5-6 jours pour le monter.
Localisé vers l'embarcadère, c'est ça ?
Alors, à côté de l'embarcadère, sur les quais de Saône, sur la presqu'île, le square Delphos, exactement. Et pour notre part, sur la totalité des 25 soirées, nous ne jouerons que deux soirées. Effectivement, c'est le 8 et le 9 août avec un concert de
mercredi, je crois, de
musique anglaise qui s'appelle Purcell is Back, et puis un concert plutôt de musique méditerranéenne, espagnole et italienne qui s'appelle South Barocco, qui reprend beaucoup de Chaconne, baroque avec
tarentelle et autres folies d'Espagne.
Programme avec des musiques un peu atypiques et en même temps assez populaires.
Avec Heather Newhouse.
La muse, nous l'avons qualifié comme cela tout à l'heure. Et puis alors à venir, donc un peu plus loin, ça commence en octobre, je crois, le premier concert de la saison 2015-16. On approche du 20e anniversaire, je crois, de 25e, je veux dire, le 25e, j'ai mal calculé.
Donc,
2017,
oui,
c'est ça ?
Je crois que c'est la 22e saison, je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin bref, elle s'appelle Constellation. Et nous proposons effectivement une dizaine de programmes différents entre octobre et juin.
Ça fait 9 mois, une belle gestation autour des constellations.
On parlait tout à l'heure du Messie de Handel.
Ah, le Messie à Noël, bon, voilà.
Le 15 décembre.
Un grand classique.
Un concert mystère. Des Vêpres de Mozart, Vivaldi en lumière, Purcell, Evening Concert.
Il peut y avoir deux entrées, Gérald. Oui, il peut y avoir deux entrées, Gérald, pour parler de cette saison. Il peut y avoir l'entrée des programmes, puis aussi, nous en parlions il y a quelques instants, il peut y avoir l'entrée des lieux avec, tu viens de le dire, le concert mystère. Là, pour le coup, tout est mystérieux. Le programme, on ne le connaît pas, alors que, ça doit être, tout cela doit être réglé. Le lieu non plus, on ne connaît rien.
Baroque,
ni le programme, ni le lieu. Oui, le point de rendez-vous est en revanche connu, ce sera à 19h, mais bon, c'est un concert particulier, Gérald. Là, on peut l'évoquer, c'est un concert tout de même réservé.
C'est Saint-Exupéry.
Oui, c'est ça, c'est un concert réservé.
Oui, oui.
Concert réservé aux mécènes. Donc, on peut en parler à l'antenne, mais à moins qu'auditeur, vous soyez mécène, ça ne vous sera pas.
Mais le mécénat, c'est ouvert à
tout le monde,
en fait. C'est pas
bien sûr.
Des entreprises, c'est une mécénat particulier.
Ah oui, d'accord.
Je
laissais entendre que le mécénat était terminé. Non, on peut encore le devenir. Ça n'est pas du tout.
C'est comme Corneille de Lyon, les gens peuvent donner 3 euros pour contribuer à l'acquisition, c'est pas fait encore.
Je crois qu'il a été acquis, l'homme au gant. Oui.
Non, mais on a des gens, c'est du mécénat particulier, donc c'est des sommes tout à fait modestes.
Alors, cette entrée des lieux, est-ce que deux concerts sont au moins donnés, est-ce que deux concerts seront donnés dans le même lieu où vraiment vous allez explorer
Quelques fois,
peut-être.
Lorsqu'on joue deux fois la suite, on joue dans le même lieu, on ne va pas changer du jour au lendemain.
Mais sinon, vous avez donc neuf programmes, c'est ça, je crois?
Neuf programmes, neuf lieux différents.
Neuf lieux différents.
Voilà. Donc, avec des lieux un peu...
insolites, comme
oui,
les qualifier.
Oui, un peu classique, hein, comme certaines églises, on se produit régulièrement, comme la basilique d'Ennet, etc. Mais des lieux un petit peu plus insolites, où il y a incongru. Moins de musique. Par exemple, je pense, en novembre, il y a le programme Vivaldi en lumière sera donné dans la salle de la Corbeille, au Palais de la Bourse.
Ah oui. Voilà. Belle salle aussi. Et là puis, où on vote habituellement.
Oui. Et puis au mois de mars, là dans un lieu tout à fait un petit peu étonnant, c'est l'ancien garage Citroën qui est donc rue de Marseille.
Qui a été désaffecté récemment.
Qui est réaffecté actuellement. Oui. Il y a des travaux importants et d'accord. On va jouer dans une entreprise qui a aménagé un auditorium.
Le New Deal
désormais.
Le Temple Lanterne, c'est un lieu habituel.
Les mardis 15 et 16 mars.
Oui.
Le Temple Lanterne.
Théâtre
oui,
Sainte-Hélène.
Alors, le Théâtre Sainte-Hélène, c'est le Centre Saint-Marc. C'est notre lieu de résidence, de travail, où nous répétons tous les jours. D'accord. Donc, c'est un peu un comme à la maison, quoi, voilà.
Et puis, si on veut faire le tour, il y a également donc, l'église Saint-Bonaventure, qui est... Voilà ce point des Cordeliers, bah c'est en face.
Enfin,
presque
en face
du Palais de la Bourse. Voilà. Et puis, oui, on a presque...
Et Saint-Bruno.
Alors, un grand lieu baroque.
Les Chartreux.
Belle église baroque, ah oui, rénovée oui. Récemment.
Oui.
Et alors, peut-être une troisième entrée. On parlait donc des programmes, on parlait à l'instant des lieux, et puis peut-être, si, ça reviendrait un peu au programme, mais ce triple intérêt que vous manifestez et qui, moi, m'intéresse beaucoup, ce triple intérêt que vous portez, vous l'évoquez dans le texte, la note d'introduction, on peut la qualifier de note d'intention sur l'édito carrément de cette saison 2015-2016 Constellation. Vous proposez donc d'explorer le vaste champ artistique des compositeurs oubliés, des manuscrits inédits et des versions alternatives. C'est ce que vous ferez pour, par exemple, on pourrait évoquer pour Carissimi, le concert de fin de saison. Pour le coup, c'est un peu tout. C'est un musicien oublié, également des manuscrits inédits et puis aussi versions alternatives ou peut-être moins.
Alors non, là on va jouer, on va interpréter, on va se donner les moyens de le jouer un peu avec un travail de restitution scientifique, un peu à l'époque. Donc là on n'est pas dans l'alternatif, on est au contraire dans une recherche d'authenticité. Mais c'est vrai que ce compositeur, il est quand même connu des mélomanes et des chercheurs, mais c'est un des compositeurs les plus importants du premier baroque, du milieu du XVIIe siècle on va dire. Compositeur romain et qui est quasi un des pères fondateurs de l'oratorio. Et il y a beaucoup de sa musique à Lyon, qui a été ramenée sans doute par des jésuites. Il y a beaucoup de sa musique. C'est le plus grand fonds Carissimi en France après la Bibliothèque nationale à Paris. Et nous invitons Paul Agnew, qui est chef des arts florissants, qui est un spécialiste de ce répertoire italien baroque 17e, qui viendra l'interpréter à partir de manuscrits de la bibliothèque, effectivement. Et ça sera une belle façon de terminer la saison. C'est pile dans un an.
Est-ce qu'on peut parler, c'est le terme que j'ai employé, tout de même de compositeur oublié pour lui, parce que moi j'avoue, le nom de Carissimi, avant de feuilleter cette jolie brochure, très très légère, très agréable, je ne connaissais pas du tout le nom de ce Giacomo Carissimi, concert, vous l'avez indiqué, donné les mardis 21 juin et mercredi 22 2016, ce sera à 20h30 à l'église Saint-Bruno les Chartreux. Donc est-ce un compositeur oublié ou alors non, c'est vraiment moi qui manifeste là une inculture crasse, et c'est tout de même, vous l'avez indiqué, quelqu'un de...
Alors,
premier baroque, c'est quand même un nom.
Ça fait pas partie des 15 compositeurs baroques les plus connus, mais il vient dans une seconde liste assez rapidement quand même. Il y a pire, comme on dit. Il y a beaucoup plus oubliés que lui, en fait.
Donc vous parlez de compositeurs oubliés, lesquels seraient-ils dans cette saison, dans cette...
Alors,
Handel pour le Messie, pas du tout. C'est
non,
un
non,
peu
non,
un tube.
Non, c'est vrai que c'est plutôt
les
par
airs
exemple,
de Vivaldi non plus.
Le programme qui s'appelle Célébration au mois de mai, qui est un programme polychoral dans lequel on va jouer des musiques, par exemple, d'un certain Zelensky, qui est un compositeur polonais qui a écrit des musiques polychorales au XVIIe, à la fin du XVIe, début du XVIIe, absolument incroyable.
Ah oui, non, ça ne me dit rien. Il y a un M devant,
oui, quelque chose comme ça.
En revanche, le J pour Desprez, c'est Josquin.
Alors,
Desprez, c'est ça,
Zelensky,
je crois.
Oui, il est très très peu connu. On jouera aussi dans ce même programme des musiques de Cerérols, qui est un moine catalan du XVIIe siècle. Et puis là, vous évoquiez Tavener.
John Tavener, contemporain.
Plus connu, il est mort l'année dernière.
Oui. Donc là, c'est...
anglais, très 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 connu en Angleterre, beaucoup moins en France, mais voilà, donc oui, c'est un programme où on verra des choses assez
compositeur d'une œuvre, je crois les Seven Villes, il me semble, il y a quelque chose comme
c'est
ça,
possible,
je crois.
Des... c'est lui qui a fait aussi la musique de l'enterrement de Lady Di, par exemple.
Voilà. Et alors, voix soutenue par les cornets, les sacs-boutes, les dulcianes et autres serpents. On vous transporte dans les basiliques de toute l'Europe.
Voilà, il faut faire un petit peu rêver les gens aussi.
Non, mais très bien. Et donc, pourquoi Tavener au milieu de ce Josquin des Prés, puis de Monteverdi, ainsi que alors, Elgar, quoi qu'Elgar, c'est quand même plus tardif.
Mais en fait, il y a des compositeurs de tous les siècles, parce que ce qu'on a voulu, c'est proposer ce qu'on fait presque jamais, hein, un répertoire un peu crossover sur 7 siècles de musique et retracer un peu l'histoire de la basilique d'Ainay, en fait, hein, sur les, c'est une vieille dame lyonnaise qui a 7 siècles. Donc, on va partir de musique contemporaine de la création de la basilique pour aller jusqu'à des musiques, je parlais de Tavener qui est mort l'année dernière. Voilà, pour aller jusqu'à des
multiples restaurations.
Voilà, pour aller jusqu'au 21e siècle, en fait. Donc, on va un peu parcourir les siècles avec ce programme.
Donc un programme donné deux fois, les mardis 24 et mercredi 25 mai 2016 à 20h30 à la basilique d'Ainay. Et puis je vois, est-ce une sorte de préoccupation ou bien vous parlez donc de tracer un portrait de la musique, enfin comment dire, d'aller d'un point du temps à un autre. Je vois le programme du mois de mars qui irait du madrigal à la chanson pop contemporaine. C'est quelle idée, quel conducteur pour ce programme, pour ces concerts qui auront lieu les mardis 15 et mercredi 16 mars 2016, toujours à 20h30
aussi. Oui, alors là, il s'agit d'un programme complètement en marge, un peu atypique, que l'on crée dans le cadre du Lab, hein, qui est notre laboratoire à idées un peu transgressives.
Ah, et oui,
dans
lequel on quel propose... est cet acronyme? Je l'ai aperçu, je n'en ai pas vu là.
Alors c'est le Lab, c'est en fait tout ce qui est...
Il y aurait une signification, laboratoire baroque?
Non,
ça
veut dire oui, laboratoire baroque, oui. C'est-à-dire qu'à partir de la musique ancienne, on invite des artistes. Bon, cette année, on a travaillé avec des gens comme Mourad Merzouki, par exemple, le hip-hop. Alors, des chorégraphes, mais aussi des metteurs en scène, des plasticiens, des vidéastes, pour proposer des formes de concerts complètement un peu étonnantes, un peu contemporaines dans leur format. Et là, il s'agit de... c'est un spectacle qui serait mis en scène... par un metteur en scène suisse qui est très très connu dans le nord de l'Europe, qui s'appelle Gaëtan Aubry, et qui va mettre en scène une sorte de cabaret intemporel qui va de Paolo Conte jusqu'à Monteverdi, ou de Pink Martini jusqu'à Purcell, et pour proposer une sorte de crossover un peu de variété baroque. Donc c'est un spectacle qui sera mis en scène avec des objets connectés, donc on est loin du concert baroque,
des
écrans vidéo, donc là on sera dans quelque chose de complètement inclassable et atypique. C'est dans l'esprit du Lab, voilà, de proposer des formes nouvelles de concertantes. Ça nous permet de toucher aussi un public différent.
Il y aura néanmoins une figure que les Lyonnais reconnaîtront, nommons-la encore une fois, Heather Newhouse sera présente sur scène. C'est très intéressant ce sens d'aller de Paolo Conte à Monteverdi, et vous avez dit ensuite de Pink Martini. Oui, c'est très curieux d'aller dans ce sens-là, au lieu de dire Purcell, plutôt jusqu'à Pink Martini. Et puis,
ce qui est intéressant, c'est ce mélange de nouveautés, d'innovation, d'expérience avec le Lab, et puis de l'autre côté, le côté patrimonial, didactique, avec par exemple les Secrets Lyonnais, où on retrouve la figure du Lyonnais Jean-Marie Leclerc, par exemple.
Oui, alors là, effectivement, on est dans les deux extrêmes du concert de l'Hôtel Dieu. Avec Secrets Lyonnais, il s'agit de refaire vivre des manuscrits de la bibliothèque de la Pardieu, hein, du Silo, qui beaucoup de musique non éditée, non jouée du XVIIe et du XVIIIe siècle, beaucoup de musique italienne d'ailleurs, mais aussi de la musique de quelques Lyonnais, comme Leclerc évidemment, Rameau avait passé un temps à Lyon, des gens comme Mondonville qui ont composé pour Lyon aussi, donc voilà, musique baroque italienne et française du XVIIIe siècle à partir de manuscrits inédits. Donc là, c'est un concert qui aura une forme de concert lecture avec des propos didactiques. Et ça, c'est pour les passionnés et les mélomanes qui ont envie de comprendre quelle était la vie musicale au XVIIIe siècle à Lyon, qui est très, très intéressante.
ça, c'est vous. Enfin, bien entendu, j'ai la réponse un peu à cette question. Mais ça, pour vous, enfin, du moins, ça a une réelle importance, la confrontation avec les manuscrits, avec les documents. Vous allez donc vous-même les rechercher, les consulter. Vous cherchez éventuellement d'autres versions ou alors voir des choses donc inédites. Ça a un sens parce que j'avais une autre question également qui était, est-ce que, comme vous le faites un peu maintenant pendant cette émission, est-ce que vous prenez également la parole pendant les concerts? Ben, il me semble que j'ai eu la réponse puisque vous l'indiquez à l'instant, ce concert qui sera donné le mardi 3 mai 2016, toujours à 18h30. Et 20h30, un programme donné deux fois, Secret Lyonnais, donné au Théâtre Sainte-Hélène. Vous dites que c'est didactique, donc oui, vous prendrez la parole. Et donc oui, les manuscrits, il y a un...
Oui, oui, c'est la source, hein, c'est la source même.
Bien entendu, oui.
Et d'aller sur la graphie du compositeur ou du copiste qui le...
N'y a-t-il pas des problèmes quand même, quelquefois?
Ah si, il y a des problèmes, parce qu'il y a forcément, il y a souvent des fautes, on est un peu dans l'imperfection humaine et des erreurs d'inattention qui peuvent exister. Quelquefois, on voit plus très bien ce qui est écrit. Mmh. Le temps a laissé quelques outrages. Mais c'est tout ce travail archéologique et scientifique qui, quand même, le début. Et après, il faut bien sûr sans prendre ses distances et rentrer dans la communication, hein, c'est-à-dire de faire passer notre passion et puis de rendre cette musique vivante et surtout sortir du côté muséal qui n'a d'intérêt que pour quelques passionnés. Mais c'est quand même un passage obligé et qui est assez quand même passionnant, hein, pour les chercheurs et les musiciens que nous sommes, et de voir les annotations d'époque. Quelquefois on a le nom des interprètes, quelquefois ça m'est arrivé de voir leur rémunération de voir les effectifs même, de combien de chanteurs avaient chanté telle partie, ce qui donne aussi des indications d'interprétation. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de pistes qui sont très très utiles et qui nous aident à faire vivre cette musique par-delà les siècles.
Eh bien, vraiment, cela doit faire des journées très chargées, ces recherches à faire, cette direction assurée lors des concerts.
C'est et puis le privilège accordé aux Lyonnais, hein, oui. Parce qu'il y a peu de villes. Hein.
Et puis de venir ensuite...
Le concert d'Hôtel Dieu, un acteur majeur de la scène baroque française, on pourrait le comparer à d'autres villes, où c'est aussi dynamique le baroque. Paris, évidemment.
Paris, oui, il y a beaucoup d'ensembles.
Mais d'autres villes de province?
Oui, oui, il y en a d'autres, et progressivement, presque dans chaque ville.
Strasbourg, partout.
Oui, Strasbourg, même Toulouse, Marseille, il commence à avoir des ensembles qui se créent à peu près partout.
Mmh. Et bien, alors,
tant mieux.
Merci à vous quand même, Franck-Emmanuel Comte. En plus, j'ajoute de ce travail, hein, à côté de ce travail de recherche et puis de direction lors des concerts, merci de venir au
prendre
micro
le temps de, venir à
de Radio Canu pour parler, hein, de tout ça. Gérald, c'est absolument terrible. Il me semblait que tu avais quelques annonces à faire. Je pense pas que nous avons le temps.
Non, j'ai même pas d'annonce à faire.
Bon, très bien. Moi, je souhaitais rappeler que mai, juin, juillet continue encore. Et puis la semaine prochaine, on parlera de Péléas et Mélisande. Et puis dans deux semaines, on évoquera donc la Tour Passagère.
Oui, le 1. Je savais pas quoi aller. Oh, le numéro 1, ça m'énerve de faire. Parler à tous les. Peut-être bientôt à toutes les émissions, je parlerai du 1, mais il se trouve que. Ils abordent des questions d'actualité intéressantes sous divers aspects, avec des dessins, des BD, des poèmes, des articles de fond. Et il y en a un qui, le dernier d'aujourd'hui, est sur l'école, pourquoi ça coince. Et ça a l'air intéressant. Donc
Gérald, ça va coincer.
J'invite les auditeurs à le lire.
Ça va coincer. J'aperçois Pascal qui est dans la place. Donc nous allons le céder le micro, nous allons céder l'antenne au blues des Canus, puisque Pascal est bien de retour. Merci beaucoup, Franck-Emmanuel Comte. Merci d'être passé. Allez nombreux à ce concert du lundi 8 juin. Vous retrouvez sur le blog de Spectaculaire tout un tas de renseignements et de précisions. Voilà. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.